Chapitre 3. 1er juillet. Il est temps que j'essaie de démêler le fil de mon existence personnelle et intime qui, depuis 2 mois, s'est un peu perdu au milieu des obligations actives de ma charge. Le lendemain de mon arrivée, après avoir étudié pendant quelques heures dans ma retraite les papiers et les registres du père Ivar, comme on nomme ici mon prédécesseur, j'allais déjeuner au château où je ne retrouvais plus qu'une faible partie des hôtes de la veille. Madame Larocque, qui a beaucoup vécu à Paris avant que la santé de son beau-père l'eût condamnée à une perpétuelle villégiature, conserve fidèlement dans sa retraite le goût des intérêts élevés, élégants ou frivoles, dont le ruisseau de la rue du Bac était le miroir du temps du turban de Madame de Staël. Elle paraît en outre avoir visité la plupart des grandes villes de l'Europe et en a rapporté des préoccupations littéraires qui dépassent la mesure commune de l'érudition et de la curiosité parisienne. Elle reçoit beaucoup de journaux et de revues et s'applique à suivre de loin, autant que possible, le mouvement de cette civilisation raffinée dont les musées et les livres frais échos sont les fleurs et les fruits plus ou moins éphémère. Pendant le déjeuner, on vint à parler d'un opéra nouveau, et Madame Larocque adressa sur ce sujet à Monsieur de Bévalan une question à laquelle il ne put répondre, quoiqu'il ait toujours, si l'on en croit un pied et un œil, sur le boulevard des Italiens. Madame Larocque se rabattit alors sur moi, tout en manifestant par son air de distraction le peu d'espoir qu'elle avait de trouver son homme d'affaires très au courant de celle-là. Mais, précisément et malheureusement, ce sont les seuls que je connaisse. J'avais entendu en Italie l'opéra qu'on venait de jouer en France pour la première fois. La réserve même de mes réponses éveilla la curiosité de Madame Larocque, qui se mit à me presser de questions, et qui daigna bientôt me communiquer elle-même ses impressions, ses souvenirs et ses enthousiasmes de voyage. Bref, nous ne tardâmes pas à parcourir en camarades les théâtres et les galeries les plus célèbres du continent, et notre entretien, quand on quitta la table, était si animé que mon interlocutrice, pour n'en point rompre le cours, prit mon bras sans y penser. Nous allâmes continuer dans le salon nos sympathiques effusions, Madame Larocque oubliant de plus en plus le ton de protection bienveillante qui jusque-là m'avait passablement choqué dans son langage vis-à-vis de moi. Elle m'avoua que le démon du théâtre la tourmentait à un haut degré et qu'elle méditait de faire jouer la comédie au château. Elle me demanda des conseils sur l'organisation de ce divertissement. Je lui parlai alors avec quelques détails des scènes particulières que j'avais eu l'occasion de voir à Paris et à Saint-Pétersbourg. Puis, ne voulant pas abuser de ma faveur, je me levai brusquement en déclarant que je prétendais inaugurer sans retard mes fonctions par l'exploration d'une grosse ferme qui est située à 2 petites lieues du château. Madame Larocque, à cette déclaration, parut subitement consternée. Elle me regarda, s'agita dans ses coussinets, approcha ses mains de son brasero et me dit enfin à mi-voix, « Bon, qu'est-ce que cela fait? Laissez donc cela aller. » Et comme j'insistais, « Mais mon Dieu, reprit-elle avec un embarras plaisant, c'est qu'il y a des chemins affreux. Attendez au moins la belle saison. »« Non, madame, dis-je en riant, je n'attendrai pas une minute. On est intendant ou on ne l'est pas. »« Madame, dit le vieil Alain qui se trouvait là, on pourrait atteler pour monsieur Odiot le berlingot du père Ivar. Il n'est pas suspendu, mais il en est plus solide. » Madame Larocque foudroya d'un coup d'œil le malheureux Alain, qui osait proposer à un intendant de mon espèce, qui avait été au spectacle chez la grande duchesse Hélène, le berlingot du père Ivar. « Est-ce que l'américaine ne passerait pas dans le chemin ?» demanda-t-elle. « L'américaine, madame, oh, ma foi, non. Il n'y a pas risque qu'elle y passe, » dit Alain. « Ou si elle y passe, elle n'y passera pas tout entière. Et encore, je ne crois pas qu'elle y passe. » Mais je protestais que j'irais parfaitement à pied. « Ah non, non, c'est impossible, je ne veux pas. Voyons, voyons donc. » Mais nous avons bien ici une demi-douzaine de chevaux de selle qui ne font rien. Mais probablement vous ne montez pas à cheval. Non, je vous demande pardon, madame, mais c'est vraiment inutile. Je vais... Alain, faites seller un cheval pour monsieur. Lequel, dit Marguerite? Donnez-lui Proserpine. Murmura M. de Bévalan en riant dans sa barbe. « Ah non, 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 pas Proserpine !» s'écria vivement Mademoiselle Marguerite. « Pourquoi pas Proserpine, mademoiselle » dis-je alors. « Parce qu'elle vous jetterait par terre. Elle vous jetterait par terre, me répondit nettement la jeune fille. « Oh, comment ça ? Véritablement ? Pardon, voulez-vous me permettre de vous demander, mademoiselle, si vous montez cette bête ?» « Oui, monsieur, mais j'ai de la peine. »« Eh bien, peut-être en aurez-vous moins, mademoiselle, quand je l'aurai monté moi-même une fois ou deux. »« Non, cela me décide. Allez, faites, c'est des Proserpine, Alain. » Mademoiselle Marguerite fronça son noir sourcil et s'assit en faisant un geste de la main comme pour repousser toute part de responsabilité dans la catastrophe imminente qu'elle prévoyait. « Si vous avez besoin d'éperons, j'en ai une paire à votre service, » reprit alors M. Bévalan, qui décidément prétendait que je n'en revinsse pas. Sans paraître remarquer le regard de reproche que Mademoiselle Marguerite adressait à l'obligeant gentilhomme, j'acceptai ses éperons. 5 minutes après, un bruit de piétinement désordonné annonçait l'approche de Proserpine, qu'on amenait avec assez de difficulté au bas d'un des escaliers du jardin réservé, et qui était, par parenthèse, un très beau demi-sang noir comme le jet. Je descendis aussitôt le perron. Quelques bonnes gens, M. de Bévalan à leur tête, me suivirent sur la terrasse par humanité, je crois, et l'on ouvrit en même temps les 3 fenêtres du salon pour l'usage des femmes et des vieillards. Je me serais volontiers passé de tout cet appareil, mais enfin, il fallait s'y résigner, et j'étais d'ailleurs sans grande inquiétude sur les suites de l'aventure, car si je suis un jeune intendant, je suis un très vieil écuyer. Je marchais à peine que mon pauvre père m'avait déjà planté sur un cheval au grand désespoir de ma mère, et depuis il n'avait négligé aucun soin pour me rendre son égal dans un art où il excellait. Il avait même poussé mon éducation sous ce rapport, jusqu'au raffinement, me faisant revêtir parfois de vieilles et pesantes armures de famille pour accomplir plus à l'aise mes exercices de haute voltige. Cependant, Proserpine me laissa débrouiller ses rênes et même toucher son encolure, sans donner le moindre signe d'irritation. Mais elle ne sentit pas plutôt mon pied se poser sur l'étrier qu'elle se jeta brusquement de côté en poussant 3 ou 4 ruades superbes par-dessus les grands vases de marbre qui ornaient l'escalier. Puis elle se mata en faisant l'agréable et en battant l'air de ses pieds de devant. Après quoi, elle se reposa frémissante. « Pas facile au montoir, » me dit le valet d'écurie en clignant de l'œil. « Ah, oh, je le vois bien, mon garçon, mais je vais bien l'étonner, va. » En même temps, je me mis en selle sans toucher l'étrier, et pendant que Proserpine réfléchissait à ce qui lui arrivait, je pris une solide assiette. L'instant d'après, nous disparaissions au petit galop de chasse dans l'avenue de Châtaignier, suivi par le bruit de quelques battements de mains, Donc, monsieur de Bévalan avait eu le bon esprit de donner le signal. Cet incident, tout insignifiant qu'il fût, ne laissa pas, comme je pus m'en apercevoir dès le même soir à la mine des gens, de relever singulièrement mon crédit dans l'opinion. Quelques autres talents de la même valeur dont m'a pourvu mon éducation ont achevé de m'assurer ici toute l'importance que j'y souhaite, celle qui doit garantir ma dignité personnelle. On voit assez, au reste, que je ne prétends nullement abuser des prévenances et des égards dont je puis être l'objet pour usurper dans le château un rôle peu conforme aux fonctions modestes que j'y remplis. Je me renferme dans ma tour aussi souvent que je le puis, sans manquer formellement aux convenances. Je me tiens en un mot strictement à ma place, afin qu'on ne soit jamais tenté de m'y remettre. Quelques jours après mon arrivée, comme j'assistais à un de ces dîners de cérémonie qui, dans cette saison, sont ici presque quotidiens, mon nom fut prononcé sur un ton interrogatif par le gros sous-préfet de la petite ville voisine qui était assis à la droite de la dame châtelaine. Madame Larocque, qui est assez sujette à ces sortes de distractions, oublia que je n'étais pas loin d'elle. Et, bon gré mal gré, je ne perdis pas un mot de sa réponse. « Oh, mon Dieu, ne m'en parlez pas. Il y a là un mystère inconcevable. Nous pensons que c'est quelque prince déguisé. Il y en a tant qui courent le monde pour le quart d'heure. Mais celui-là a tous les talents imaginables. Il monte à cheval, il joue du piano, il dessine, et tout cela dans la perfection. » Entre nous, mon cher sous-préfet, je crois bien que c'est un très mauvais intendant, mais vraiment, c'est un homme très agréable. Le sous-préfet, qui est aussi un homme très agréable, ou qui du moins croit l'être, ce qui revient au même pour sa satisfaction, dit alors gracieusement, en caressant d'une main potelée ses splendides favoris, qu'il y avait assez de beaux yeux dans le château pour expliquer bien des mystères, et qu'il soupçonnait fort l'intendant d'être un prétendant, et que du reste l'amour était le père légitime de la folie, et l'intendant naturel des grâces. Puis, changeant de ton tout à coup, « Au surplus, madame, ajouta-t-il, si vous avez la moindre inquiétude à l'égard de cet individu, je le ferai interroger dès demain par le brigadier de gendarmerie. » Madame Larocque se récria contre cet excès de zèle galant, et la conversation, en ce qui me concernait, n'alla pas plus loin. Mais elle me laissa très piqué, non point contre le sous-préfet, qui au contraire me plaisait infiniment, mais contre Madame Larocque, qui, tout en rendant à mes qualités privées une justice excessive, ne m'avait point paru suffisamment pénétré de mon mérite officiel. Le hasard voulut que j'eusse dès le lendemain à renouveler le bail d'un fermage considérable. Cette opération se négociait avec un vieux paysan fort madré, que je parvins néanmoins à éblouir par quelques termes de jurisprudence adroitement combinés avec les réserves d'une prudente diplomatie. Nos conventions arrêtées, le bonhomme déposa tranquillement sur mon bureau 3 rouleaux de pièces d'or. Bien que la signification de ce versement, qui n'était point dû, m'échappât tout à fait, je me gardais de témoigner une surprise inconsidérée, mais en développant les rouleaux, je m'assurais par quelques questions indiscrètes et indirectes que cette somme constituait les arrhes du marché, en d'autres termes le pot de vin que les fermiers, à ce qu'il paraît, sont dans l'usage d'octroyer aux propriétaires à chaque renouvellement de bail. Je n'avais nullement songé à réclamer ces arrhes, n'en ayant trouvé aucune mention dans les baux précédents rédigés par mon habile prédécesseur et qui me servaient de modèle. Je ne tirai toutefois pour le moment aucune conclusion de cette circonstance. Mais quand j'allais remettre à Madame Larocque ce don de joyeux avènement, sa surprise m'étonna. « Mais qu'est-ce que c'est cela ?» me dit-elle. Je lui expliquai la nature de cette gratification. Elle me fit répéter. « Est-ce que c'est la coutume ?» reprit-elle. « Oui, madame, toutes les fois que l'on consent un nouveau bail. » « Mais il y a eu depuis 30 ans, à ma connaissance, plus de 10 baux renouvelés. Mais comment se fait-il que nous n'ayons jamais entendu parler de choses pareilles ?»« Ah, je ne saurais vous dire, madame. » Madame Larocque tomba dans un abîme de réflexion, au fond duquel elle rencontra peut-être l'ombre vénérable du père Ivard. Après quoi elle haussa légèrement les épaules, porta ses regards sur moi, puis sur les pièces d'or, puis encore sur moi, et parut hésiter. Enfin, se renversant dans son fauteuil et soupirant profondément, elle me dit avec une simplicité dont je lui sus gré, « C'est bien, monsieur, je vous remercie. » Ce trait de probité grossière dont elle avait eu le bon goût de ne pas me faire compliment n'emporta pas moins Madame Larocque à concevoir une grande idée de la capacité et des vertus de son intendant. J'en pus juger quelques jours après. Sa fille lui lisait le récit d'un voyage au pôle où il était question d'un oiseau extraordinaire qui ne vole pas. « Tiens, dit-elle, c'est comme mon intendant. » J'espère fermement m'être acquis depuis ce temps, par le soin sévère avec lequel je m'occupe de la tâche que j'ai acceptée, quelques titres à une considération d'un genre moins négatif. Monsieur Laubépin, quand je suis allé à Paris récemment, pour embrasser ma sœur, m'a remercié avec une vive sensibilité de l'honneur que je faisais aux engagements qu'il avait pris pour moi. « Courage, Maxime, m'a-t-il dit, nous doterons Hélène. La pauvre enfant ne sera pour ainsi dire aperçue de rien. Et quant à vous, mon ami, n'ayez point de regrets. Croyez-moi, ce qui ressemble le plus au bonheur en ce monde, vous l'avez en vous, et grâce au ciel, je vois que vous l'aurez toujours. La paix de la conscience et la mal-sérénité d'une âme toute au devoir. » Ce vieillard a raison, sans doute. Je suis tranquille et pourtant je ne me sens guère heureux. Il y a dans mon âme, qui n'est pas assez mûre encore pour les austères jouissances du sacrifice, des élans de jeunesse et de désespoir. Ma vie, vouée et dévouée, sans réserve à une autre vie plus faible et plus chère, ne m'appartient plus. Elle n'a pas d'avenir, elle est dans un cloître à jamais fermé. Mon cœur ne doit plus battre, ma tête ne doit plus songer que pour le compte d'une autre. Enfin, qu'Hélène soit heureuse. Les années s'approchent déjà pour moi, qu'elles viennent vite. Je les implore, leur glace aidera mon courage. Je ne saurais me plaindre au reste d'une situation qui en somme a trompé mes plus pénibles appréhensions et qui même dépasse mes meilleures espérances. Mon travail, mes fréquents voyages dans des départements voisins, mon goût pour la solitude, me tiennent souvent éloigné du château dont je fuis surtout les réunions bruyantes. Peut-être dois-je en bonne partie à ma rareté l'accueil amical que j'y trouve. Madame Larocque en particulier me témoigna une véritable affection. Elle me prend pour confident de ses bizarres et très sincères manies de pauvreté, de dévouement et d'abnégation poétique, qui forment, avec ses précautions multipliées de créoles frileuses, un amusant contraste. Tantôt, elle porte envie aux bohémiennes chargées d'enfants qui traînent sur les routes une misérable charrette et qui font cuire leur dîner à l'abri des haies. Et tantôt, ce sont les sœurs de charité, tantôt les cantinières dont elle ambitionne les héroïques labeurs. Enfin, elle ne cesse de reprocher à feu Monsieur Larocque, le fils, son admirable santé qui n'a jamais permis à sa femme de déployer les qualités de garde-malade dont elle se sentait le cœur gonflé. Cependant, elle a eu l'idée, ces jours-ci, de faire ajouter à son fauteuil une espèce de niche en forme de guérite pour s'abriter contre les vents coulis. Je la trouvais, l'autre matin, installée triomphalement dans ce kiosque où elle attend assez doucement le martyr. J'ai à peine moins à me louer des autres habitants du château. Mademoiselle Marguerite, toujours plongée comme un sphinx nubien dans quelque rêve inconnu, condescend pourtant avec une prévenante bonté à répéter pour moi mes airs de prédilection. Elle a une voix de contralto admirable dont elle se sert avec un art consommé, mais en même temps une nonchalance et une froideur qu'on dirait véritablement calculée. Il lui arrive en effet, par distraction, de laisser échapper de ses lèvres des accents passionnés, mais aussitôt, elle paraît comme humiliée et honteuse de cet oubli de son caractère ou de son rôle, et elle s'empresse de rentrer dans les limites d'une correction glacée. Quelques parties de piquet que j'ai eu la politesse facile de perdre avec M. Larocque m'ont concilié les bonnes grâces du pauvre vieillard, dont les regards affaiblis s'attachent quelquefois sur moi avec une attention vraiment singulière. On dirait alors que quelques songes du passé, quelques ressemblances imaginaires se réveillent à demi dans les nuages de cette mémoire fatiguée, au sein de laquelle flottent les images confuses de tout un siècle. Mais ne voulait-on pas me rendre l'argent que j'avais perdu avec lui? Il paraît que Madame Aubry, partenaire habituelle du vieux capitaine, ne se fait point scrupule d'accepter régulièrement ses restitutions, ce qui ne l'empêche pas de gagner assez fréquemment l'ancien corsaire avec lequel elle a dans ces circonstances des abordages tumultueux. Cette dame que M. Lobé Pin traitait avec beaucoup de faveur quand il la qualifiait simplement d'esprit aigri ne m'inspire aucune sympathie. Cependant, par respect pour la maison, je me suis astreint à gagner sa bienveillance, et j'y suis parvenu en prêtant une oreille complaisante, tantôt à ses misérables lamentations sur la condition présente, tantôt aux descriptions emphatiques de sa fortune passée, de son argenterie, de son mobilier, de ses dentelles et de ses paires de gants. Il faut avouer que je suis à bonne école pour apprendre à dédaigner les biens que j'ai perdus. Tous ici, en effet, par leur attitude et leur langage, me prêchent éloquemment le mépris des richesses. Madame Aubry, d'abord, qu'on peut comparer à ces gourmands sans vergogne, dont la révoltante convoitise vous ôte l'appétit et qui vous donne le profond dégoût des mets qu'ils vous vantent. Ce vieillard qui s'éteint sur ses millions, aussi tristement que Job sur son fumier, cette femme excellente mais romanesque et blasée, qui rêve, au milieu de son importune prospérité, le fruit défendu de la misère, enfin la superbe Marguerite, qui porte comme une couronne d'épines le diadème de beauté et d'opulence dont le ciel a écrasé son front. Étrange fille! Presque chaque matin, quand le temps est beau, je la vois passer à cheval sous les fenêtres de mon beffroi. Elle me salue d'un grave signe de tête qui fait onduler la plume noire de son feutre, puis s'éloigne lentement dans le sentier ombragé qui traverse les ruines du vieux château. Ordinairement, le vieil Alain la suit à quelque distance. Parfois, elle n'a d'autre compagnon que l'énorme et fidèle Mervyn, qui allonge le pas aux côtés de sa belle maîtresse comme un ours pensif. Elle s'en va, en cet équipage, courir dans tout le pays environnant des aventures de charité. Elle pourrait se passer de protecteur. Il n'y a pas de chaumière à 6 lieues à la ronde qui ne la connaisse et qui ne la vénère comme la fée de la bienfaisance. Les paysans disent simplement en parlant d'elle « mademoiselle », comme s'ils parlaient d'une de ces filles de roi qui charment leur légende et dont elle leur semble avoir la beauté, la puissance et le mystère. Je cherche cependant à m'expliquer le nuage de sombres préoccupations qui couvre sans cesse son front, la sévérité hautaine et défiante de son regard, la sécheresse amère de son langage. Je me demande si ce sont là les traits naturels d'un caractère bizarre et mêlé, ou les symptômes de quelques secrets tourments, remords, craintes ou amour qui rongeraient ce noble cœur. Si désintéressé que l'on soit dans la question, il est impossible qu'on se défende d'une certaine curiosité en face d'une personne aussi remarquable. Hier soir, pendant que le vieil Alain, dont je suis le favori, me servait mon repas solitaire, « Eh bien, Alain, lui dis-je, voilà une belle journée. Vous êtes-vous promené aujourd'hui ?»« Oui, monsieur, ce matin, avec mademoiselle. » « Ah, vraiment ? Oh, monsieur nous a bien vu passer. »« Oh, il est possible, Alain. Ah oui, je vous vois quelquefois passer. » Vous avez bonne mine à cheval, Alain. Oh, monsieur est trop obligeant. Mademoiselle a meilleure mine que moi. Oh, c'est une jeune fille très belle. Oh, parfaite, monsieur. Et au-dedans comme au-dehors, ainsi que madame sa mère. Je dirai à monsieur une chose. Monsieur sait que cette propriété appartenait autrefois au dernier comte de Castelnec, que j'avais l'honneur de servir. Quand la famille Larocque acheta le château, j'avouerai à monsieur que j'eus le cœur un peu gros et que j'hésitais à rester dans la maison. J'avais été élevé dans le respect de la noblesse et il m'en coûtait beaucoup de servir des gens sans naissance. Monsieur a pu remarquer que j'éprouvais un plaisir particulier à lui rendre mes devoirs. C'est que je trouve à monsieur un air de gentilhomme. Êtes-vous bien sûr de n'être pas noble, monsieur ? Oh, je le crains, mon pauvre Alain. Au reste, oh, et c'est ce que je voulais dire à monsieur, reprit Alain en s'inclinant avec grâce. J'ai appris au service de ces dames que la noblesse des sentiments valait bien l'autre, et en particulier celle de monsieur le comte de Castelnec, qui avait le faible de battre ses gens. Dommage pourtant, monsieur, disons-le, que mademoiselle ne puisse éprouver un gentilhomme d'un beau nom. Il ne manquerait plus rien à ses perfections. Il me semble, Alain, qu'il ne tient qu'à elle. Oh, si monsieur veut parler de monsieur de Bévalant, il ne tient qu'à elle, en effet, car il l'a demandé il y a plus de 6 mois. Madame ne paraissait pas trop contraire au mariage, et de fait, M. de Bévalant est, après les Larocque, le plus riche du pays. Mais mademoiselle, sans se prononcer positivement, a voulu prendre le temps de la réflexion. Mais si elle aime M. de Bévalant, et si elle peut l'épouser quand elle voudra, pourquoi est-elle toujours triste et distraite, comme on la voit ? Mais c'est une vérité, monsieur, que depuis 2 ou 3 ans, mademoiselle est changée. Autrefois, c'était un oiseau pour la gaieté. Maintenant, on dirait qu'il y a quelque chose qui la chagrine. Mais je ne crois pas, sauf respect, que ce soit son amour pour ce monsieur. Vous ne paraissez pas fort tendre vous-même pour monsieur de Bévalan, mon bon Alain. Il est d'excellente noblesse, pourtant. Mais ça l'empêche pas d'être un mauvais gars, monsieur, qui passe son temps à débaucher les filles du pays. Et si monsieur a des yeux, il peut voir qu'il ne se gênerait pas pour faire le sultan dans le château en attendant mieux. Il y eut une pause silencieuse après laquelle Alain reprit. Dommage que monsieur n'ait pas seulement une centaine de mille francs de rente. Et pourquoi cela, Alain? Parce que, dit Alain en hochant la tête d'un air songeur, 25 juillet, dans le courant du mois qui vient de s'écouler, j'ai gagné une amie et je me suis fait, je crois, deux ennemis. Les ennemis sont Mademoiselle Marguerite et Mademoiselle Élouin. L'amie est une demoiselle de 88 ans. J'ai peur qu'il n'y ait pas compensation. Mademoiselle Élouin, avec laquelle je veux d'abord régler mon compte, est une ingrate. Mes prétendus torts envers elle devrait plutôt me recommander à son estime, mais elle paraît être une de ces femmes assez répandues dans le monde qui ne rangent point l'estime au nombre des sentiments qu'elles aiment à inspirer ou qu'on leur inspire. Dès les premiers temps de mon séjour ici, une sorte de conformité entre la fortune de l'institutrice et celle de l'intendant, la modestie commune à notre état dans le château, m'avait porté à nouer avec Mademoiselle Élouin les relations d'une bienveillance affectueuse. En tout temps, je me suis piqué de manifester à ces pauvres filles l'intérêt que leurs tâches ingrates, leur situation précaire, humiliée et sans avenir, me paraissent appeler sur elles. Mademoiselle Élouin est d'ailleurs jolie, intelligente, remplie de talent. Et bien qu'elle gâte un peu cela par la vivacité d'allure, la coquetterie fiévreuse et la légère pédanterie, qui sont les travers habituels de l'emploi, j'avais un très faible mérite. J'en conviens à jouer près d'elle le rôle chevaleresque que je m'étais donné. Ce rôle prit à mes yeux le caractère d'une sorte de devoir. Quand je pus reconnaître, ainsi que plusieurs avertissements me l'avaient fait pressentir, qu'un lion dévorant, sous les traits du roi François Ier, rôdait furtivement autour de ma jeune protégée. Cette duplicité qui fait honneur à l'audace de monsieur de Bévalan est conduite sous couleur d'une aimable familiarité, avec une politique et un aplomb qui trompent aisément les regards inattentifs ou candides. Madame Laroque et sa fille en particulier sont trop étrangères aux perversités de ce monde et vivent trop loin de toute réalité pour éprouver l'ombre d'un soupçon. Quant à moi, fort irrité contre cet insatiable mangeur de cœur, je me fis un plaisir de contrarier ses desseins. Plus d'une fois, je détournais l'attention qu'il essayait d'accaparer. Je m'efforçais surtout de diminuer dans le cœur de Mademoiselle Élouin cet amer sentiment d'abandon et d'isolement qui donne en général tant de prise aux consolations qui lui étaient offertes. Ai-je jamais dépassé, dans le cours de cette lutte mal avisée, la mesure délicate d'une protection fraternelle? Je ne le crois pas. Et les termes mêmes du court dialogue qui a subitement modifié la nature de nos relations semblent parler en faveur de ma réserve. Un soir de la semaine dernière, on respirait le frais sur la terrasse. Mademoiselle Élouin, à qui j'avais eu précisément dans la journée l'occasion de montrer quelques égards particuliers, prit légèrement mon bras. Et tout en piquant de ses dents minces et blanches une fleur d'oranger, vous êtes bon, monsieur Maxime, me dit-elle d'une voix un peu émue. Oh, j'essaie, mademoiselle. Vous êtes un véritable ami, Oui. Mais un ami, comment? Véritable, vous l'avez dit. Un ami qui m'aime? Sans doute. Beaucoup? Bah, assurément. Passionnément? Oh non. Sur ce monosyllabe, que j'articulais fort nettement et que j'appuyais d'un regard ferme, Mademoiselle Éloin jeta vivement loin d'elle la fleur d'oranger et quitta mon bras. Depuis cette heure néfaste, on me traite avec un dédain que je n'ai pas volé, et je croirais bien décidément que l'amitié d'un sexe à l'autre est un sentiment illusoire, si ma mésaventure n'eût eu le lendemain même une sorte de contrepartie. J'étais allé passer la soirée au château. Deux ou trois familles étrangères qui venaient d'y séjourner pendant une quinzaine l'avaient quitté dans la matinée. Je n'y trouvais que les habitués, le curé, le percepteur, le docteur Desmarets, enfin le général de Saint-Cast et sa femme, qui habitent ainsi que le docteur la petite ville voisine. Madame de Saint-Cast, qui paraît avoir apporté à son mari une assez belle fortune, était engagée, quand j'entrais, dans une conversation animée avec Madame Aubry. Ces deux dames, suivant leur usage, s'entendaient parfaitement. Elles célébraient tour à tour, comme deux pasteurs d'églogue, les charmes incomparables de la richesse, dans un langage où la distinction de la forme le disputait à l'élévation de la pensée. Vous avez bien raison, madame, me disait madame d'Aubory. Il n'y a qu'une chose au monde, c'est d'être riche. Quand je l'étais, je méprisais de tout mon cœur ce qui ne l'était pas. Aussi, je trouve maintenant tout naturel qu'on me méprise, et je ne m'en plains pas. Maman, vous ne méprisez pas pour cela, madame. Reprenait Madame de Saint-Cast. Bien certainement non, madame. Mais il est certain que d'être riche ou d'être pauvre, cela fait une fière différence. Voilà le général qui en sait quelque chose, lui qui n'avait absolument rien quand je l'ai épousé, que son épée, et ce n'est pas une épée qui met du beurre dans la soupe, n'est-ce pas, madame? Oh non, 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 madame, s'écria Madame Aubry, en applaudissant à cette hardie métaphore. L'honneur et la gloire, c'est très beau dans les romans. Mais j'aime mieux une bonne voiture, n'est-ce pas, madame? Oui, certainement, madame, et c'est ce que je disais ce matin même au général en venant ici. N'est-ce pas, général? Oh non! Grommela le général, qui jouait tristement dans un coin avec l'ancien corsaire. Vous n'aviez rien quand je vous ai épousé, général, reprit Madame de Saint-Cast. Vous ne songez pas à le nier, j'espère. Vous l'avez déjà dit, murmura le général. Ben, cela n'empêche pas que sans moi vous iriez à pied, mon général, ce qui ne serait pas gai avec vos blessures. Ce n'est pas avec vos 6 ou 7 000 francs de retraite que vous pourriez rouler carrosse, mon ami. Je lui disais cela ce matin, madame, à propos de notre nouvelle voiture, qui est douce comme il n'est pas possible d'être douce. Au surplus, j'y ai mis le prix. Cela fait 4 bons 1 000 francs de moins dans ma bourse, madame. Oh, je le crois bien, madame. Ma voiture de gala m'en coûtait bien 5 000, en comptant la peau de tigre pour les pieds qui valait à elle seule 500 francs. Moi? Reprit Madame de Saint-Cast. J'ai été forcé d'y regarder un peu, car je viens de renouveler mon meuble de salon, et rien qu'en tapis et en tenture. Oh, j'en ai pour 15 000 francs. C'est trop beau pour un trou de province, vous me direz. C'est bien vrai, mais toute la ville est à genoux devant, et on aime à être respecté, n'est-ce pas, madame? Oh, sans doute, madame, répliqua Madame Aubry. On aime à être respecté, et on n'est respecté qu'en proportion de l'argent qu'on a. Pour moi, je me console de n'être plus respecté aujourd'hui, en pensant que si j'étais encore ce que j'ai été, je verrais à mes pieds tous les gens qui me méprisent. Acceptez-moi, morbleu ! S'écria le docteur Desmarets en se levant tout à coup. Vous auriez 100 millions de rentes que vous ne me verriez pas à vos pieds. Je vous en donne ma parole d'honneur. Bon, et là-dessus, je vais prendre l'air. Car le diable m'emporte, on n'y tient plus. En même temps, le brave docteur sortit du salon, emportant toute ma gratitude, car il m'avait rendu un véritable service en soulageant mon cœur oppressé d'indignation et de dégoût. Bien que M. Desmarets soit établi dans la maison sous le pied d'un Saint Jean Bouche d'Or, à qui l'on souffre la plus grande indépendance de langage, l'apostrophe avait été trop vive pour ne pas causer dans l'assistance un sentiment de malaise qui se traduisit par un silence embarrassé. Madame Larocque le rompit adroitement en demandant à sa fille si 8 heures étaient sonnées. « Non, ma mère, répondit Mademoiselle Marguerite, car Mademoiselle Porrohet n'est pas encore arrivée. » La minute d'après, comme le timbre de la pendule se mettait en branle, la porte s'ouvrit et Mademoiselle Jocelyne de Porrohet-Gaël, donnant le bras au docteur Desmarets, entra dans le salon avec une précision astronomique. Mademoiselle de Porrohet-Gaël, qui a vécu cette année son 88e printemps et qui a l'apparence d'un long roseau conservé dans la soie, est le dernier rejeton d'une fort noble race dont on croit retrouver les premiers ancêtres parmi les rois fabuleux de la vieille Armorique. Toutefois, cette maison ne prend sérieusement pied dans l'histoire qu'au XIIe siècle, en la personne de Jutael, fils de Conan le Thor, issu de la branche cadette de Bretagne. Quelques gouttes du sang des Porrohet ont coulé dans les veines les plus illustres de France, dans celles des Rohan, des Lusignan, des Penthièvre. Et ces grands seigneurs convenaient que ce n'était pas là le moins pur de leur sang. Je me souviens qu'étudiant un jour, dans un accès de vanité juvénile, l'histoire des alliances de ma famille, j'y remarquais ce nom bizarre de Porrohet, et que mon père, très érudit en ces matières, me le vanta beaucoup. Mademoiselle de Porrohet, qui reste aujourd'hui seule de son nom, n'a jamais voulu se marier, afin de conserver le plus longtemps possible, dans le firmament de la noblesse française, la constellation de ces syllabes magiques, Porrohet-Gaël. Le hasard voulut un jour qu'on parlât devant elle des origines de la maison de Bourbon. « Les Bourbons !» dit Mademoiselle de Porrohet en plongeant à plusieurs reprises son aiguille à tricoter dans sa perruque blonde. « Les Bourbons sont de bonne noblesse, mais, prenant soudain un air modeste, il y a mieux. » Il est impossible, de reste, de ne point s'incliner devant cette vieille fille auguste qui porte avec une dignité sans égale la triple et lourde majesté de la naissance, de l'âge et du malheur. Un procès déplorable qu'elle s'obstine à soutenir hors de France depuis une 15aine d'années a progressivement réduit sa fortune, déjà très mince, et c'est à peine s'il lui reste aujourd'hui 1 millier de francs de revenus. Cette détresse n'a rien enlevé à sa fierté, rien ajouté à son humeur. Elle est gaie, égale, courtoise. Elle vit, on ne sait comment, dans sa maisonnette avec une petite servante, et elle trouve encore moyen de faire beaucoup d'aumônes. Madame Laroque et sa fille se sont prises pour leur noble et pauvre voisine d'une passion qui les honore. Elle est chez elle l'objet d'un respect attentif et qui confond Madame Aubry. J'ai vu souvent Mademoiselle Marguerite quitter la danse la plus animée pour faire le quatrième au whist de Mademoiselle de Porrohet. Si le whist de Mademoiselle de Porrohet, à 5 centimes l'affiche, venait à manquer un seul jour, le monde finirait. Je suis moi-même un des partenaires préférés de la vieille demoiselle, et le soir dont je parle, nous ne tardâmes pas, le curé, le docteur et moi, à nous trouver installés autour de la table de whist, en face et aux côtés de la descendante de Conan le Thor. Il faut savoir qu'au commencement du dernier siècle, un grand-oncle de Mademoiselle de Porrohet, qui était attaché à la maison du duc d'Anjou, passa les Pyrénées à la suite du jeune prince devenu Philippe V et fit en Espagne un établissement qui prospéra. Sa descendance directe paraît s'être éteinte il y a une quinzaine d'années, et Mademoiselle de Porrohet, qui n'avait jamais perdu de vue ses parents d'Outremont, se porta aussitôt héritière de leur fortune, que l'on dit considérable. Ses droits lui furent contestés trop justement par une des plus vieilles maisons de Castille, alliée à la branche espagnole des Porrohet. De là ce procès que la malheureuse octogénaire poursuit à grands frais. De juridiction en juridiction, avec une persistance qui touche à la manie dont ses amis s'affligent et dont les indifférents s'amusent. Le docteur Desmarets, malgré le respect qu'il professe pour Mademoiselle de Porrohet, ne laisse pas lui-même de prendre parti au nombre des rieurs, d'autant plus qu'il désapprouve formellement l'usage auquel la pauvre femme consacre en imagination son chimérique héritage, à savoir l'érection dans la ville voisine d'une cathédrale du plus beau style flamboyant qui propagerait jusqu'au fond des siècles futurs le nom de la fondatrice et d'une grande race disparue. Cette cathédrale, réventée sur un rêve, est le jouet innocent de cette vieille enfant. Elle en a fait exécuter les plans. Elle passe ses jours et quelquefois ses nuits à en méditer les splendeurs, à en changer les dispositions, à y ajouter quelques ornements. Et elle en parle comme d'un monument déjà bâti, impraticable. J'étais dans la nef de ma cathédrale, j'ai remarqué cette nuit dans l'aile nord de ma cathédrale une chose bien choquante. Oh, j'ai modifié la livrée du Suisse, etc., etc. Eh bien, mademoiselle, dit le docteur, tandis qu'il battait les cartes, avez-vous travaillé à votre cathédrale depuis hier? Mais oui, docteur, il m'est même venu une idée assez heureuse. J'ai remplacé le mur plein qui séparait le chœur de la sacristie par un feuillage en pierre ouvragée, à l'imitation de la chapelle de Clisson dans l'église de Josselin. C'est beaucoup plus léger. Oui, oh, certainement. Mais quelle nouvelle d'Espagne en attendant? Oh, ça, est-il vrai, comme je pense l'avoir lu ce matin dans la Revue des Deux Mondes, que le jeune duc de Villahermosa vous propose de terminer votre procès à l'amiable par un mariage? Mademoiselle de Porrohet secoua d'un geste dédaigneux le panache de ruban flétri qui flotte sur son bonnet. « Oh, je refuserai d'être, » dit-elle. « Oh, oui, oui, vous dites cela, mademoiselle, mais que signifie donc ce bruit de guitare qu'on entend depuis quelques nuits sous vos fenêtres? Oh, bon, et cet espagnol en manteau et en bottes jaunes qu'on voit rôder dans le pays et qui soupire sans cesse. Vous êtes un folâtre, dit mademoiselle de Porhoët, qui ouvrit brusquement sa tabatière. Au reste, puisque vous voulez le savoir, mon homme d'affaires m'a écrit de Madrid il y a 2 jours qu'avec un peu de patience, nous verrions sans aucun doute la fin de nos maux. Parbleu, je crois bien. Savez-vous d'où il sort, votre homme d'affaires ? De la caverne de Gil Blas, directement. Il vous tirera votre dernier écu et se moquera de vous. Ah, que vous seriez avisé de planter là une bonne fois cette folie et de vivre tranquille. À quoi vous serviraient les millions, voyons ? N'êtes-vous pas heureuse et considérée ? Et qu'est-ce que vous voulez de plus ? Quant à votre cathédrale, je n'en parle pas parce que c'est une mauvaise plaisanterie. Ma cathédrale n'est une mauvaise plaisanterie qu'aux yeux des mauvais plaisants, docteur Desmarets. D'ailleurs, je défends mon droit, je combats pour la justice, ces biens sont à moi, je l'ai entendu dire 100 fois à mon père et jamais de mon gré. Ils n'iront à des gens qui sont aussi étrangers à ma famille, en définitive, que vous, mon cher ami, ou que monsieur, ajouta-t-elle en me désignant d'un signe de tête. J'eus l'enfantillage de me trouver piqué de la politesse, et je ripostai aussitôt. « Oh, oh, ce qui vous concerne, mademoiselle, vous vous trompez, car ma famille a eu l'honneur d'être alliée à la vôtre, et réciproquement. » En entendant ces paroles énormes, mademoiselle de Porhoët rapprocha vivement de son menton pointu les cartes développées en éventail dans sa main, et redressant sa taille élancée, elle me regarda en face pour s'assurer d'abord de l'état de ma raison, puis elle reprit son calme par un effort surhumain, et approchant de son nez effilé une pincée de tabac d'Espagne, Vous me prouverez cela, jeune homme, me dit-elle. Honteux de ma ridicule vanterie et très embarrassé des regards curieux qu'elle m'avait attirés, je m'inclinai gauchement sans répondre. Notre whist s'acheva dans un silence morne. Il était 10 heures. Et je me préparais à m'esquiver quand mademoiselle de Porhoët me toucha le bras. « Monsieur l'intendant, dit-elle, me fera-t-il l'honneur de m'accompagner jusqu'au bout de l'avenue ?» Je la saluai encore et je la suivis. Nous nous trouvâmes bientôt dans le parc. La petite servante en costume du pays marchait la première, portant une lanterne. Puis venait mademoiselle de Porhoët, raide et silencieuse, relevant d'une main soigneuse et décente les maigres plis de son fourreau de soie. Elle avait sèchement refusé l'offre de mon bras, et je m'avançai à ses côtés, la tête basse, très mal satisfait de mon personnage. Au bout de quelques minutes de cette marche funèbre, « Eh bien, monsieur, me dit la vieille demoiselle, parlez donc, j'attends. Vous avez dit que ma famille avait été alliée à la vôtre et, comme une alliance de cette espèce est un point d'histoire entièrement nouveau pour moi, je vous serais très obligé de vouloir bien me l'éclaircir. J'avais décidé à part moi que je devais à tout prix maintenir le secret de mon incognito. « Mon Dieu, mademoiselle, dis-je, j'ose espérer que vous excuserez une plaisanterie échappée au courant de la conversation. »« Une plaisanterie ? » s'écria mademoiselle de Porhoët. « Ah, la matière en effet prête beaucoup à la plaisanterie. Et comment appelez-vous, monsieur, dans ce siècle-ci, les plaisanteries qu'on adresse bravement à une vieille femme sans protection et qu'on oserait se permettre en face d'un homme? Mademoiselle, vous ne me laissez aucune retraite possible. Bon, mais il ne me reste qu'à me fier à votre discrétion. Je ne sais, mademoiselle, sinon si le nom des chancellerieux vous est connu. Je connais parfaitement, monsieur, les chancellerieux, qui sont une bonne, une excellente famille du Dauphiné. Et quelle conclusion en tirez-vous? Ben, je suis aujourd'hui le représentant de cette famille. Vous? Dit mademoiselle de Porhoët en faisant une halte subite. Vous êtes un champcet d'Hauterive? Mal, oui, mademoiselle. Oh, ceci change la thèse, dit-elle. Donnez-moi votre bras, mon cousin, et contez-moi votre histoire. Je crus que dans l'état des choses, le mieux était effectivement de ne lui rien cacher. Je terminai le pénible récit des infortunes de ma famille quand nous nous trouvâmes en face d'une maisonnette singulièrement étroite et basse, qui est flanquée à l'un des angles d'une espèce de colombier écrasé à toit pointu. Entrez, marquis, me dit la fille des rois de Gaël, arrêtée sur le seuil de son pauvre palais. Entrez donc, je vous en prie. L'instant d'après, j'étais introduit dans un petit salon tristement pavé de briques. Sur la tapisserie qui couvrait les murs se pressaient une dizaine de portraits d'ancêtres blasonnés de l'hermine ducale. Au-dessus de la cheminée, je vis étinceler une magnifique pendule d'écaille incrustée de cuivre et surmontée d'un groupe qui figurait le char du soleil. Quelques fauteuils adossés ovales et un vieux canapé à jambes grêles complétaient la décoration de cette pièce où tout accusait une propreté rigide et où l'on respirait une odeur concentrée d'iris, de tabac d'Espagne et de vagues aromates. Asseyez-vous, me dit la vieille demoiselle en prenant elle-même place sur le canapé. Asseyez-vous, mon cousin. Car bien qu'en réalité nous ne soyons point parents, et que nous ne puissions l'être, puisque Jeanne de Porhoët et Hugues de Champsay ont eu, soit dit entre nous, la sottise de ne point faire souche, il me sera agréable, avec votre permission, de vous traiter de cousin dans le tête-à-tête, afin de tromper un instant le sentiment douloureux de ma solitude en ce monde. Ainsi donc, mon cousin, voilà où vous en êtes. Le passé est rude, assurément. Toutefois, je vous suggérerais quelques pensées qui me sont habituelles et qui me paraissent de nature à vous offrir de sérieuses consolations. En premier lieu, mon cher marquis, je me dis souvent qu'au milieu de toutes ces pleutres et anciens domestiques qu'on voit aujourd'hui rouler carrosse, il y a dans la pauvreté un parfum supérieur de distinction et de bon goût. En outre, je ne suis pas loin de croire que Dieu a voulu réduire quelques-uns d'entre nous à une vie étroite, afin que ce siècle grossier, matériel, affamé d'or, est toujours sous les yeux, dans nos personnes, un genre de mérite, de dignité, d'éclat, où l'or et la matière n'entrepôt rien, que rien ne puisse acheter, qui ne soit pas à vendre. Tel est, mon cousin, suivant toute apparence, la justification providentielle de votre fortune et de la mienne. Je témoignai à mademoiselle de Porhoët combien je me sentais fier d'avoir été choisi avec elle pour donner au monde le noble enseignement dont il a si grand besoin et dont il paraît si disposé à profiter. Puis elle reprit, « Pour mon compte, monsieur, je suis faite à l'indigence et j'en souffre peu. Quand on a vu dans le cours d'une vie trop longue un père de son nom, quatre frères dignes de leur père, succomber avant l'âge sous le plomb ou sous l'acier, quand on a vu périr successivement tous les objets de son affection et de son culte, il faudrait avoir l'âme bien petite pour se préoccuper d'une table plus ou moins copieuse, d'une toilette plus ou moins fraîche. Oh, certes, marquis, si mon aisance personnelle était seule en cause, vous pouvez croire que je ferais bon marché de mes millions d'Espagne. Mais il me semble convenable et de bon exemple qu'une maison comme la mienne ne disparaisse point de la terre sans laisser après elle une trace durable, un monument éclatant de sa grandeur et de ses croyances. Et c'est pourquoi, à l'imitation de quelques-uns de nos ancêtres, j'ai songé, mon cousin, et je ne renoncerai jamais tant que je serai vieux, à la pieuse fondation dont vous n'êtes pas sans avoir entendu parler. » S'étant assurée de mon assentiment, la vieille et noble fille parut se recueillir, et tandis qu'elle promenait un regard mélancolique sur les images à demi effacées de ses aïeux, la pendule héréditaire troubla seule dans l'obscur salon le silence de minuit. « Il y aura, » reprit tout à coup Mademoiselle de Porhoët d'une voix solennelle, « il y aura un chapitre de chanoine régulier attaché au service de mon église. Chaque jour à matine, il sera dit dans la chapelle particulière de ma famille une messe basse pour le repos de mon âme et des âmes de mes aïeux. Les pieds de l'officiant fouleront un marbre sans inscription qui formera la marge de l'autel et qui recouvrira mes restes. Je m'inclinai avec l'émotion d'un visible respect. Mademoiselle de Porhoët prit ma main et la serra doucement. « Je ne suis point folle, cousin, » reprit-elle, « quoi qu'on dise. Mon père, qui ne mentait point, m'a toujours assuré qu'à l'extinction des descendants directs de notre branche espagnole, nous aurions seuls droit à l'héritage. Sa mort, soudaine et violente, ne lui permit pas malheureusement de nous donner sur ce sujet des renseignements plus précis. Mais, ne pouvant douter de sa parole, je ne doute pas de mon droit. Cependant, ajouta-t-elle après une pause et avec un accent de touchante tristesse, si je ne suis point folle, je suis vieille. Et ces gens de là-bas le savent bien. Ils me traînent depuis 15 ans de délai en délai. Ils attendent ma mort, qui finira tout. Et voyez-vous, ils n'attendront pas longtemps. Il faudra faire un de ces matins, je le sens bien, mon dernier sacrifice. Cette pauvre cathédrale, mon seul amour, qui avait remplacé dans mon cœur tant d'affections brisées ou refoulées, elle n'aura jamais qu'une pierre, celle de mon tombeau. La vieille demoiselle se tut. Elle essuya de ses mains amaigries deux larmes qui coulaient sur son visage flétri, puis ajouta, en s'efforçant de sourire, « Pardon, mon cousin, Vous avez lancé de vos malheurs. Excusez-moi. D'ailleurs, il est tard. Retirez-vous, vous me compromettez. Avant de partir, je recommandais de nouveau à la discrétion de Mademoiselle de Porrette le secret que j'avais dû lui confier. Elle me répondit d'une manière un peu évasive que je pouvais être tranquille, qu'elle saurait ménager mon repos et ma dignité. Toutefois, les jours suivants, je soupçonnais au redoublement des gardes dont m'honorait Madame Larocque que ma respectable amie lui avait transmis ma confidence. Mademoiselle de Perroette n'hésita pas du reste à en convenir, m'assurant qu'elle n'avait pu faire moins pour l'honneur de sa famille et que Madame Larocque était d'ailleurs incapable de trahir, même vis-à-vis de sa fille, un secret confié à sa délicatesse. Cependant, ma conférence avec la vieille demoiselle m'avait laissé pénétrer d'un respect attendri dont j'essayais de lui donner des marques. Dès le lendemain, dans la soirée, j'appliquais à l'ornementation intérieure et extérieure de sa chère cathédrale toutes les ressources de mon crayon. Cette attention à laquelle elle s'est montrée sensible a pris peu à peu la régularité d'une habitude. Presque chaque soir, après le whist, je me mets au travail et l'idéal monument s'enrichit d'une statue, d'une chaire ou d'un jubé. Mademoiselle Marguerite, qui semble porter à sa voisine une sorte de culte, a voulu s'associer à mon œuvre de charité en consacrant à la basilique des Porrettes un album spécial que je suis chargé de remplir. J'offris en outre à ma vieille confidente de prendre ma part des démarches, des recherches et des soins de toute nature que peut susciter son procès. La pauvre femme m'avoua que je lui rendais service, qu'à la vérité elle pouvait encore tenir sa correspondance au courant, mais que ses yeux affaiblis refusaient de déchiffrer les documents manuscrits de son chartrier et qu'elle n'avait jamais voulu, jusque-là, se faire suppléer par personne dans ce travail, si important qu'il pût être pour sa cause, afin de ne pas donner une nouvelle prise à la raillerie incivile des gens du pays. Bref, elle m'agréa en qualité de conseil et de collaborateur. Depuis ce temps, j'ai étudié en conscience le volumineux dossier de son procès, et je suis demeuré convaincu que l'affaire qui doit être jugée en dernier ressort un de ces jours est absolument perdue d'avance. Monsieur le Bépin, que j'ai consulté, partage cette opinion que je m'efforcerai au surplus de cacher à ma vieille amie tant que les circonstances le permettront. En attendant, je lui fais le plaisir de dépouiller pièce par pièce ses archives de famille, dans lesquelles elle espère toujours découvrir quelques titres décisifs en sa faveur. Malheureusement, ses archives sont fort riches, et le colombier en est rempli depuis le toit jusqu'à la cave. Hier, je m'étais rendu de bonne heure chez Mademoiselle de Porrette, afin d'y achever avant l'heure du déjeuner le dépouillement de la liasse numéro 115 que j'avais commencé la veille. La maîtresse du logis n'étant pas encore levée, je m'installai sans bruit dans le salon, moyennant la complicité de la petite servante, et je me mis solitairement ma poudreuse besogne. Au bout d'une heure environ, comme je parcourais avec une joie extrême le dernier feuillet de la liasse 115, je vis entrer Mademoiselle de Porhoète, traînant avec peine un énorme paquet fort, proprement recouvert d'un linge blanc. « Bonjour, me dit-elle, mon aimable cousin. Ayant appris que vous donniez ce matin de la peine pour moi, j'ai voulu m'en donner pour vous. Je vous apporte la lia 116. » Il y a dans je ne sais quel conte une princesse malheureuse qu'on enferme dans une tour et à qui une fée ennemie de sa famille impose coup sur coup une série de travaux extraordinaires et impossibles. J'avoue qu'en ce moment, Mademoiselle de Porhoète, malgré toutes ses vertus, me parut être proche parente de cette fée. Mais j'ai rêvé cette nuit, continua-t-elle, que cette liasse contenant la clé de mon trésor espagnol, vous m'obligerez donc beaucoup de l'empoigner, différer l'examen. Ce travail terminé, vous me ferez l'honneur d'accepter un repas modeste que je prétends vous offrir sous l'ombrage de ma tonnelle. Je me résignai donc. Il est inutile de dire que la bienheureuse liasse 116 ne contenait, comme les précédentes, que la vaine poussière des siècles. À midi précis, la vieille demoiselle vint me présenter son bras et me conduisit en cérémonie dans un petit jardin festonné de buis qui forme, avec un bouquet de prairies contiguës, tout le domaine actuel des poètes. La table était dressée sous une charmille arrondie en berceau, et le soleil, d'une belle journée d'été, jetait à travers les feuilles quelques rayons irisés sur la nappe éclatante et parfumée. J'achevais de faire honneur au poulet doré, à la fraîche salade et à la bouteille de vieux Bordeaux qui composait le menu du festin, quand Mademoiselle de Porhoète, qui avait paru enchantée de mon appétit, fit tomber la conversation sur la famille Larocque. Je vous confesse, me dit-elle, que l'ancien corsaire ne me plaît point. Je me souviens qu'il avait, lorsqu'il arriva dans ce pays, un grand singe familier qu'il habillait en domestique avec lequel il semblait s'entendre parfaitement. Oh, cet animal était une vraie peste dans le canton, et il n'y avait qu'un homme sans éducation et sans décence qui pût s'en être affublé. On disait que c'était un singe, et j'y consentais, mais au fond, je pense que c'était tout bonnement un nègre, d'autant plus que j'ai toujours soupçonné son maître d'avoir fait le trafic de cette denrée sur la côte d'Afrique. Au surplus, feu Monsieur Larocque le fils était un homme de bien et très comme il faut. Quant à ces dames, parlons bien entendu de Madame Larocque et de sa fille, et nullement de la veuve Audry, qui est une créature de bas aloi. Quant à ces dames, dis-je, il n'y a pas d'éloge qu'elles ne méritent. Nous en étions là, quand le pas relevé d'un cheval se fit entendre dans le sentier qui borde extérieurement le mur du jardin. Au même instant, on frappa quelques coups secs à une petite porte voisine de la tonnelle. « Eh bien, dit Mademoiselle de Porhoète, qui va là ?» Je levai les yeux et je vis flotter une plume noire au-dessus de la crête du mur. « Ouvrez !» dit gaiement en dehors une voix d'un timbre grave et musical. « Ouvrez ! C'est la fortune de la France !»« Mais comment ? C'est vous, ma mignonne ?» s'écria la vieille demoiselle. « Courez vite, mon cousin !» La porte ouverte, je faillis être renversé par Mervyn, qui se précipita à travers mes jambes, et j'aperçus Mademoiselle Marguerite, qui s'occupait d'attacher les rênes de son cheval au bar d'une clôture. « Bonjour, monsieur, » me dit-elle, sans montrer la moindre surprise de me trouver là. Puis, relevant sur son bras les longs plis de sa jupe traînante, elle entra dans le jardin. « Mais soyez la bienvenue en ce beau jour, la belle fille, » dit Mademoiselle de Perrouette, « et embrassez-moi. Vous avez couru, jeune folle, car vous avez le visage couvert d'une pourpre vive et le feu vous sort littéralement des yeux. Que pourrais-je vous offrir, ma merveille ?»« Voyons, » dit Mademoiselle Marguerite en jetant un regard sur la table. « Qu'est-ce que vous avez là ?»« Monsieur a donc tout mangé ?» « Aurais-je pas faim, j'ai soif. »« Oh, je vous défends bien de boire dans l'état où vous êtes, mais attendez, il y a encore quelques fraises dans cette plate-bande. »« Des fraises, oh Gioia !» chanta la jeune fille. « Prenez vite une de ces grandes feuilles, monsieur, et venez avec moi. » Pendant que je choisissais la plus large feuille d'un figuier, Mademoiselle de Porrette, fermant un œil à demi et suivant de l'autre avec un sourire de complaisance la fière démarche de sa favorite à travers les allées pleines de soleil, « Regardez-la donc, cousin, me dit-elle tout bas, ne serait-elle pas digne d'être des nôtres ?» Cependant, Mademoiselle Marguerite, penchée sur la plate-bande et trébuchant à chaque pas dans sa traîne, saluait d'un petit cri d'allégresse chaque fraise qu'elle parvenait à découvrir. Je me tenais près d'elle, étalant dans ma main la feuille de figuier sur laquelle elle déposait de temps en temps une fraise contre deux qu'elle croquait pour se donner patience. Quand la moisson fut suffisante à son gré, nous revînmes en triomphe sous la tonnelle. Ce qui restait de fraises fut saupoudré de sucre, puis mangé à belles et très belles dents. « Ah, que ça m'a fait du bien !» dit alors Mademoiselle Marguerite, en jetant son chapeau sur un banc et en se reversant contre la clôture de Charmille. « Et maintenant, pour compléter mon bonheur, ma chère demoiselle, vous allez me conter des histoires du temps passé, du temps où vous étiez une belle guerrière. » Mademoiselle de Porrette, souriante et ravie, ne se fit pas prier davantage pour tirer de sa mémoire les épisodes les plus marquants de ces intrépides chevauchées à la suite des Lescure et des La Roche-Jacquelin. J'eus en cette occasion une nouvelle preuve de l'élévation d'âme de ma vieille amie quand je l'entendis rendre hommage en passant à tous les héros de ces guerres gigantesques sans exception de drapeau. Elle parlait en particulier du général Hoche, dont elle avait été la captive de guerre, avec une admiration presque tendre. Mademoiselle Marguerite prêtait à ses récits une attention passionnée qui m'étonna. Tantôt, à demi ensevelie dans sa niche de charmille et ses longs cils un peu baissés, elle gardait l'immobilité d'une statue. Et tantôt, l'intérêt devenant plus vif, elle s'accoudait sur la petite table et plongeant sa belle main dans les flots de sa chevelure dénouée, elle dardait sur la vieille Vendéenne l'éclair continu de ses grands yeux. Il faut bien le dire, je compterai toujours, parmi les bluetooths heures de ma triste vie, celles que je passais à contempler sur ce noble visage les reflets d'un ciel radieux mêlés aux impressions d'un cœur vaillant. Les souvenirs de la comtesse épuisés, Mademoiselle Marguerite l'embrassa, et réveillant Mervyn, qui dormait à ses pieds, elle annonça qu'elle retournait au château. Je ne me fis aucun scrupule de partir en même temps, convaincu que je ne pouvais lui causer aucun embarras. À part, en effet, l'extrême insignifiance de ma personne et de ma compagnie aux yeux de la riche héritière, le tête-à-tête en général n'a rien de gênant pour elle, sa mère lui ayant donné résolument l'éducation libérale qu'elle a reçue elle-même dans une des colonies britanniques. On sait que la méthode anglaise accorde aux femmes avant le mariage toute l'indépendance dont nous les gratifions sagement le jour où les abus deviennent irréparables. Nous sortîmes donc ensemble du jardin. Je lui tins l'étrier pendant qu'elle montait à cheval et nous nous mîmes en marche vers le château. Au bout de quelques pas, « Mon Dieu, monsieur, me dit-elle, je suis venu là vous déranger fort mal à propos, il me semble. Vous étiez en bonne fortune. »« C'est vrai, mademoiselle, mais comme j'y étais depuis longtemps, je vous pardonne et même je vous remercie. »« Vous avez beaucoup d'attention pour notre pauvre voisine. » Ma mère vous en est très reconnaissante. Et la fille de madame votre mère, dis-je en riant. Oh, moi, je m'exalte moins facilement. Si vous avez la prétention que je vous admire, il faut avoir la bonté d'attendre encore un peu de temps. Je n'ai pas l'habitude de juger légèrement des actions humaines qui ont généralement deux faces. J'avoue que votre conduite à l'égard de mademoiselle de Poët a belle apparence, mais... » Elle fit une pause, hocha la tête, et reprit d'un ton sérieux, amer et véritablement outrageant, « Mais je ne suis pas bien sûr que vous ne lui fassiez pas la cour dans l'espoir d'hériter d'elle. » Je sentis que je pâlissais. Toutefois, réfléchissant au ridicule de répondre en capitant à cette jeune fille, je me contins et je lui dis avec gravité « Permettez-moi, mademoiselle, de vous plaindre sincèrement. » Elle parut très surprise. « De me plaindre, monsieur ?» « Oui, mademoiselle, souffrez que je vous exprime la pitié respectueuse à laquelle vous me paraissez avoir droit. »« La pitié ?» dit-elle en arrêtant son cheval et en tournant lentement vers moi ses yeux à demi clos par le dédain. « Je n'ai pas l'avantage de vous comprendre. »« Oh, cela est fort simple pourtant, mademoiselle. » Si la désillusion du bien, le doute et la sécheresse d'âme sont les fruits les plus amers de l'expérience d'une longue vie, rien au monde ne mérite plus de compassion qu'un cœur flétri par la défiance avant d'avoir vécu. Monsieur, répliqua mademoiselle Larocque avec une vivacité très étrangère à son langage habituel, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Et, ajouta-t-elle plus sévèrement, vous oubliez à qui vous parlez. Cela est vrai, mademoiselle, répondis-je doucement en m'inclinant. Je parle un peu sans savoir, et j'oublie un peu à qui je parle. Mais Vous m'en avez donné l'exemple. Mademoiselle Marguerite, les yeux fixés sur la cime des arbres qui bordaient le chemin, me dit alors avec une hauteur ironique, « Faut-il vous demander pardon ?»« Assurément, mademoiselle, repris-je avec force. Si l'un de nous deux avait ici un pardon à demander, ce serait vous. Vous êtes riche et je suis pauvre. Vous pouvez vous humilier. Je ne le puis pas. » Il y eut un silence. Ses lèvres serrées, ses narines ouvertes, la pâleur soudaine de son front témoignaient du combat qui se livrait en elle. Tout à coup, abaissant sa cravache, comme pour un salut, « Eh bien, dit-elle, pardon. » En même temps, elle fouetta violemment son cheval et partit au galop, me laissant au milieu du chemin. Je ne l'ai pas revue depuis.